Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en nombre pour cette pause café, quatrième ou cinquième édition d'ailleurs, quatrième édition, merci Tiffaine, en visioconférence, une pause café qui remplace les visites qu'on fait, les rencontres qu'on organise d'habitude avec les associations, chez les associations d'ailleurs. On a Léa qui nous fait un super… Léa, c'est notre stagiaire actuellement. Vous voyez là, super photo. Donc aujourd'hui, on accueille Victoria avec Solinum. Solinum qui a été une association hyper active pendant le confinement dans les Hauts-de-Seine. Elle va vous raconter comment ils ont traversé cette période. Mais avant de rentrer dans cette expérience, Tiffaine, est-ce que tu peux nous rappeler un peu la règle, voilà, de notre rencontre?
Alors, afin qu'on entende… Bonjour à tous d'abord. Afin qu'on entende vraiment bien Victoria s'exprimer, mais vous l'avez déjà fait, vous êtes super, je vous invite à tous éteindre vos micros, vous mettre sur mute. Si vous aviez des questions pendant l'échange, je vous invite à les poser à travers le chat. Le chat, c'est la petite bulle bleue qui est en bas de votre écran. Vous avez un petit logo conversé. Donc, je vous invite à poser les questions à l'écrit. Et en fait, soit Victoria va y répondre très naturellement. Si jamais elle n'y répondait pas, ne vous inquiétez pas. Je me ferai une joie de lui poser à la fin de son échange avec Virginie. On se donne une petite demi-heure. Comme ça, si jamais il y a des questions qui soulèvent un échange un petit peu plus long, on aura un petit laps de temps supplémentaire tout à l'heure. Voilà, bah, c'est à vous.
Merci Tiffaine. Alors Victoria, Solinum, qui est Solinum en fait? Solinum d'ailleurs on dit, Solinum je crois.
C'est ça. Alors Solinum, c'est une jeune association qui pense que les nouvelles technologies peuvent avoir beaucoup d'impact et notamment aider les associations, les acteurs de la solidarité à avoir encore plus d'impact social dans leurs actions envers les personnes les plus exclues. Donc ça, on va le traduire par différents projets. On a développé le SoliGuide, qui est une cartographie en ligne qui permet de référencer tous les lieux utiles aux personnes en situation de grande précarité, de la douche à la distribution alimentaire, en passant par la permanence juridique ou les activités culinaires, par exemple. Et on a aussi développé un réseau d'hébergeurs citoyens, de femmes SDF qui viennent dormir chez des particuliers pendant des durées longues, de 15 jours à plusieurs mois, pour les mener vers la réinsertion. Puis enfin, on a une dernière activité où on fait ponctuellement des études sur des points clés de la précarité, notamment sur le numérique et la précarité, sur l'accès à l'eau et l'hygiène, etc., etc.
C'est super intéressant. Et comment est-ce que vous en êtes venu à créer Solinum en fait? Est-ce qu'il y a une histoire, une petite histoire personnelle ou amicale? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est souvent le cas chez les acteurs solidaires qu'on rencontre.
L'histoire, elle n'est pas hyper passionnante. Je pense que comme souvent, ça vient du besoin terrain, tout simplement. Moi, en fait, j'étais étudiante en école d'ingénieur à l'époque. Et ma passion à côté de ça, c'était de faire du bénévolat. Je faisais beaucoup de maraudes auprès des personnes SDF. Je l'ai fait dans plusieurs villes en France et ailleurs. Et à chaque fois, j'étais très frustrée parce que malgré les quelques années d'expérience que j'avais, il m'arrivait beaucoup de ne pas savoir orienter les personnes que je rencontrais. Sur des questions simples, ou trouver une douche par exemple, mais aussi sur des trucs qui étaient un peu plus importants pour leur réinsertion. Et pourtant je savais qu'il existait des structures, mais ça m'arrivait plein de fois de les orienter vers des structures qui étaient à l'autre bout de la ville alors qu'il y en avait qui étaient plus proches, ou les orienter vers des structures qui étaient en travaux ou qui étaient fermées. Par exemple en été, il y en a énormément qui ferment, là on arrive bientôt en été. Et donc du coup j'avais commencé à tenir une petite liste sur mon téléphone, et au final j'ai fini par en faire un Excel et en faire un projet d'étude qui progressivement est devenu Solinum. Parce que le besoin que j'avais, c'était un besoin qui était partagé par tous les acteurs de la solidarité. La base, c'est vraiment de pouvoir savoir qui fait quoi pour orienter chacun vers les structures qui vont être vraiment adaptées à leurs besoins.
Et lorsque on est rentré dans le confinement, en fait, le Soliguide, qui est donc une des trois grandes actions que vous avez menées, il en était où en fait? Est-ce qu'il y a eu besoin de le compléter ou qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que ça a amené comme, comme besoin de la structure pour s'adapter au contexte?
Alors, nous, clairement, pendant le Covid, on était dans l'œil du cyclone. Ça a été une période très, très, très intense pour nous. Parce que le besoin d'information, il existe tout le temps, à tout moment. C'est toujours important d'orienter les personnes. Mais alors, quand 83% des structures sociales ferment leurs portes, quand certaines ouvrent du jour au lendemain, ferment du jour au lendemain, changent leurs conditions d'accès, alors là, c'est encore plus essentiel de trouver une bonne information. Nous, ça s'est traduit par une hausse exceptionnelle du nombre d'utilisateurs qu'il y avait sur Soliguide, qui venaient tous chercher une information de qualité, fiable, à jour. Et donc, on a eu travaillé jour et nuit avec mon équipe pour mettre à jour toutes les fiches en permanence et puis aussi adapter notre outil. Parce que le Soliguide, il marchait bien en temps normal, mais on a dû changer quelques petites choses. Donc, notamment, comme il y avait tellement de structures qui étaient fermées, on a mis en place des bandeaux de fermeture temporaire. Et comme il y en avait trop, on a fini par mettre en place un filtre qui filtrait automatiquement toutes les structures qui étaient fermées pendant le Covid pour ne garder pour l'utilisateur que ce qui était encore ouvert actuellement. On s'est rendu compte aussi, par exemple, qu'il y avait beaucoup d'associations qui recopiaient religieusement les listes de structures ouvertes qui étaient indiquées sur Soliguide pour les afficher dans leurs accueils de jour, par exemple, dans leur café, etc. Et ça reprenait du temps. Donc, nous, on a décidé de commencer à faire des exports papier, ce qu'on ne faisait pas du tout à l'époque. Donc, on a développé de nouvelles fonctionnalités en urgence, en bidouillant un petit peu, pour leur sortir des listes papier qui pourraient imprimer régulièrement.
D'accord. On parle beaucoup de numérique, en fait, avec vous, et forcément, hein, le dispositif est sur la toile, entre guillemets. Mais est-ce que vous avez eu des appels de bénévoles ou de personnes en précarité qui vous ont dit bah non, moi je sais pas comment me connecter, comment avoir accès, ou au contraire, vous avez assisté à un changement de pratique? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux mois autour du numérique, justement?
Alors, c'est hyper intéressant parce que en fait, les personnes précaires sont plutôt beaucoup plus connectées qu'on pourrait le croire. Donc, en fait, il s'avère que 71% des personnes ont un smartphone, des personnes SDF, ce qui ne veut pas dire que tout est simple. Il y a vraiment des questions liées à la connexion, notamment accéder à un abonnement téléphonique, ce n'est pas simple du tout, et lié également aux compétences numériques. Et puis, les acteurs de la solidarité, aussi les travailleurs sociaux, des fois, ils ne maîtrisent pas toujours exceptionnellement le numérique. Nous, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de rendre la plateforme le plus simple d'utilisation possible. C'est pour ça qu'on a notamment une double entrée. On peut soit taper directement ce qu'on cherche, notamment si on connaît tous les acronymes innommables qu'on a dans l'action sociale, les CSVP, les ESI, etc. Soit on se dirige plutôt vers les grosses icônes qui vont du coup indiquer directement avec, par exemple, une icône douche, on sait à peu près qu'on se dirige vers l'hygiène.
D'accord. Et ça, c'est quelque chose que vous avez mis en place avec… Vous parlez de votre équipe, ça veut dire combien de personnes, cette équipe, hein? Quel moyen, en fait, il y avait derrière?
Alors, j'ai la chance d'avoir une équipe exceptionnelle qui a bossé d'arrache-pied, qui est composée de quelques salariés qui s'occupent de chaque territoire, mais aussi de services civiques, de volontaires en service civique qui sont exceptionnels, et aussi quelques stagiaires. On est une association qui d'habitude n'a pas énormément de bénévoles. On est plutôt sur des salariés, des services civiques en général. Et là, on a fait un pari pendant le Covid, ça a été de changer tout d'un coup ça parce qu'on avait besoin d'une force de frappe très forte. En fait, dans les deux premières semaines de la crise, on s'est concentré sur les 8 territoires d'implantation du Soliguide, donc qui sont à peu près Paris, sa petite couronne, dont les Hauts-de-Seine, qui sont Gironde, Loire-Atlantique et Strasbourg. Et on était très heureux de l'impact qu'on a eu sur ces territoires. Mais alors, très vite après, on a reçu beaucoup de messages nous disant « Moi, je ne trouve rien à Marseille. Moi, je ne trouve rien à Bourg-en-Bresse, dans le Var. » Et on se dit « Ah oui !» En fait, le besoin auquel on répond, là, il est essentiel partout, sauf qu'on n'y est pas. Et développer notre projet sur un territoire, en fait, ça demande beaucoup de travail. C'est l'animation de réseau, etc. C'est un très, très gros boulot. Alors, on n'avait pas le temps de le faire. Donc, on a fait un appel aux bénévoles. Il y a 50 personnes qui ont répondu. Donc, on a formé, coordonné 50 personnes sur la période, alors qu'on n'avait jamais coordonné de bénévoles. Et donc, sur des binômes par territoire, ils se sont mis à cartographier à toute berzingue des structures qui étaient encore ouvertes pendant le Covid. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui étaient encore ouvertes. Donc, entre guillemets, ça allait vite.
Et ça vous a probablement permis de découvrir des structures que vous ne connaissiez pas, j'imagine.
Ça nous a permis beaucoup de choses. On a été tout d'un coup en lien avec toute la planète de l'action sociale, avec la Fédération des acteurs de la solidarité, par exemple, en lien avec la Croix-Rouge aussi, au niveau national, en lien avec plein d'associations que vous connaissez sûrement, notamment comme La Cloche et Entourage. Et du coup, grâce à ces partenariats nationaux, notamment, et grâce aux bénévoles, on a pu se développer sur de nouveaux territoires. Et on a été hyper surpris de l'utilisation qui était assez forte sur ces territoires qu'on ne connaissait pas du tout. Bon, l'avantage, c'est que ça nous donne une feuille de route de où est-ce qu'on va aller demain.
C'est ça. Et alors, en fait, le principe du SoliGuide, c'est donc d'avoir cette cartographie. Et est-ce qu'il y a un accès spécifique bénévole et un accès spécifique personne en précarité? Comment il est profilé ce site?
Alors, sur soliguide.fr, toutes les informations, elles sont publiques. C'est aussi hyper important dans la transparence. Moi, quand je fais des maraudes et que je vais rencontrer des personnes, que je les oriente, c'est hyper fort pour eux de pouvoir leur dire, en fait, l'information que je te donne, peut la trouver toi aussi sur ton smartphone si tu en as un ou alors dans une bibliothèque. Et c'est la même en fait. Parce que dans l'action sociale, on est vraiment dans une situation de détresse psychologique où parfois on a l'impression qu'on nous cache des choses, on a l'impression que les gens pourraient faire plus mais qu'ils ne le font pas pour des raisons obscures. Et du coup, des fois, ça rend un petit peu parano quand on est à la rue. Et donc, du coup, c'est pour ça que la transparence, elle est d'autant plus importante. Donc, toutes les données sur SoliGuide, elles sont publiques. Et par contre, les bénévoles, ils peuvent remplir un formulaire qu'on a développé spécialement pendant le Covid d'ailleurs, qui n'existait pas avant, qui leur permet de renseigner de nouvelles fiches et de nous donner toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse les cartographier.
D'accord, c'est formidable. Et du coup, vous vous êtes retrouvés très probablement au centre d'une coordination à laquelle... vous ne pensiez peut-être pas avoir à faire face initialement. Comment ça s'est organisé, cette coordination? Est-ce que vous avez repéré des grandes têtes de réseau qui vous ont donné de l'information? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous êtes aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose et qu'il fallait tout construire? Et en gros, quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut que vous avez conservées et que vous souhaiteriez qu'elles soient poursuivies, quoi, en fait? Est-ce qu'il y a des leçons finalement du Covid sur cette coordination?
Il y en a plein. Ce qu'on a vu déjà pendant le Covid, c'est que mon téléphone, il n'a jamais autant sonné, je pense. Tout d'un coup, il y a beaucoup d'associations qui peuvent parfois avoir des guerres de chapelle sur des sujets X ou Y. Mais pendant le Covid, tout ça s'est tombé. Tout le monde a décroché le téléphone, tout le monde s'est entraidé, tous les acteurs institutionnels, associatifs, tout le monde s'est serré les coudes parce qu'on sait que devant l'urgence, on est obligé, on a ce devoir. Ça, j'aimerais beaucoup qu'on le garde. C'est vraiment quelque chose qui a été très agréable. En tant que petite association, on commence un petit peu à se faire une place, mais c'est toujours très long. Là pour le coup, les questions de crédibilité, de qui est une grosse asso, etc., ça n'avait plus d'importance. C'est vraiment qu'est-ce que tu peux apporter à la table. Et là pour le coup, on pouvait en apporter beaucoup de choses, donc on a été très heureux de pouvoir aider de plein de manières différentes, de manière aussi où on ne s'attendait pas, parce que nous, par exemple, on cartographie des choses pour des besoins purement opérationnels, pour orienter des personnes. On a eu des collectivités qui nous ont demandé de faire des extractions, plus pour avoir une vision analytique de ce qui se passait. On a eu des demandes aussi de villes qui voulaient savoir un peu où sont les points des structures qui étaient encore ouvertes pour que la police arrête de faire des contrôles à côté de ces points, parce que évidemment les personnes en situation de grande précarité, sans abri, n'avaient pas d'attestation. C'est logique. Et ça a causé pas mal de heurts. Donc, on a été hyper, hyper impressionnés par la force de tout le monde. Et vraiment, personne n'a lâché quoi que ce soit.
Et est-ce que vous avez repéré des vides, en fait, des endroits où des besoins qui n'étaient pas couverts?
Il y a pas mal de vides qui sont, à mon sens, peut-être un petit peu militants, dû aussi au fait que l'État délègue, a toujours délégué, délègue de plus en plus ses responsabilités aux associations sur le champ de la précarité et de l'action sociale. Et donc, évidemment, il y a des manques. Quand on demande à des associations qui sont composées pour beaucoup de bénévoles, qui sont composées parfois de personnes âgées qui ne peuvent pas se mettre en danger, c'est normal avec le Covid, mais évidemment, quand on a une crise sanitaire comme ça, on manque un petit peu de coordination sur les premiers temps. Il y a beaucoup de choses qui ferment. Et si l'État prenait un peu plus ses responsabilités, on aurait moins ce problème. Bon. Mm-hmm. Je pense qu'on ne résoudra sûrement jamais ce problème. Donc, sur le reste, sur les vides, je pense qu'on manquait de vision à long terme. C'est-à-dire qu'une crise, ça se prépare. Nous, on a eu la chance, entre guillemets, sur les 8 territoires où on était, parce que c'est des territoires sur lesquels on a pu informer immédiatement des personnes. Tous les autres territoires, on n'était pas à la base. Bon, on s'est implanté sur certains en cours de route, n'avait pas cette chance. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit que voilà, une crise, ça se prépare des années à l'avance. Si on a des bons systèmes qui sont en place, si les choses sont déjà cadrées, coordonnées, s'il y a des choses qui fonctionnent, alors on va être beaucoup plus résilient face à la crise.
Mmh. Alors, parlons un peu de justement des personnes à la rue et ça m'amène à vous poser une question sur Merci pour la vie que j'ai découvert très récemment, très, très belle initiative aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Victoria, et nous dire à quoi ça a répondu justement aussi pendant le Covid?
Alors, du coup, Merci pour la vie, c'est un très beau projet qui me tient beaucoup à cœur. Trouve son origine dans le fait que sur Soleil Guide, on référence à peu près tout ce qui est utile, c'est chouette, mais pas l'hébergement. Parce que l'hébergement, c'est la prérogative du 115 en France. Et donc, l'hébergement, en ce moment, est complètement saturé. Il l'est toujours sur toutes les aires urbaines depuis que je suis dans l'action sociale, je pense, et même avant. Et donc, du coup, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes à la rue. Qu'ils étaient très très vulnérables, en proie à des violences, des agressions, des viols, etc. Et donc notre priorité, ça a été de sortir ces femmes de la rue pour les placer dans des hébergements citoyens qui vont leur proposer un cadre pendant des durées assez longues, donc près de 15 jours à plusieurs mois. Et puis surtout, on va vraiment être dans une dynamique de réinsertion. On va pas juste héberger des gens chez d'autres gens. On va faire de la médiation, on va faire en sorte que les démarches en partenariat avec des associations vont bouger, vont leur permettre d'aller vraiment vers un futur, vers des formations, vers un logement stable, vers un emploi. Donc ça, c'est un petit projet qui est en expérimentation, aujourd'hui seulement à Paris et Bordeaux, mais on espère vraiment qu'on va pouvoir le faire partout en France un jour. Du coup, pendant le Covid, évidemment, les hébergements, c'était compliqué, on ne pouvait pas créer de nouvelles rencontres. On a eu assez peur. On s'est dit, mince, et si une de nos femmes hébergées avait le Covid, donnait le Covid à leurs hébergeurs, on ne sait pas, ou l'inverse. Au final, ouf, ça s'est très bien passé. On se posait aussi la question si avec le confinement, le fait d'être enfermés ensemble pendant aussi longtemps, ça allait sûrement faire des heurts, mais non, tout s'est bien passé. Tous les hébergements se sont bien passés, et on a eu la chance de ne pas faire de remise à la rue. Parce qu'on s'est dit que peut-être les hébergeurs solidaires, ils allaient se dire, bon, pour le confinement, c'est gentil, mais on arrête. Et non, tout s'est bien passé.
Et est-ce que vous avez eu une hausse des demandes et des offres, entre guillemets? Comment ça s'est passé? Il faut aller sur un site. Expliquez-nous un peu comment ça marche, en fait. Merci pour l'invite.
Alors, du coup, pendant le Covid, il n'y a pas eu de hausse de demande parce que, pour une fois, les personnes ont été hébergées par l'État dans des hôtels. Bon, évidemment, là, ils sont en train de remettre à la rue. Donc, on retrouve la case des départs. Mais, en tout cas, pendant le Covid, ils se sont un petit peu bougés. Et donc, on n'a pas eu de hausse de demande, on n'a pas eu de hausse particulière d'offres non plus. Ce n'était pas vraiment le moment. Là, par contre, ça repart. Donc, on est très contents. S'il y a des personnes qui souhaitent héberger ou qui souhaitent communiquer autour du fait qu'il est possible d'héberger des femmes SDF, il faut aller sur merci.l'invite.fr. Il y a un formulaire qui permet de s'inscrire en tant qu'hébergeur. C'est quelque chose qui n'est pas engageant, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire en disant « j'ai peut-être envie, mais j'ai un peu envie d'en parler pour savoir comment ça se passe et être assuré, ça n'engage à rien ».
D'accord, ok. Merci pour merci pour l'invite à aller voir. C'est vraiment super intéressant. Et enfin, donc j'ai compris que vous aviez une troisième activité qui était cette activité de sortir des études assez précises sur différents sujets. Et est-ce que là, justement, il y aurait un sujet auquel vous pensez que le confinement génère. Je crois qu'il y a eu une étude sur le numérique, hein, c'est ça. Il y a eu une étude sur l'hébergement aussi, il me semble.
On a fait en fait une étude sur le numérique et la précarité en 2018, qui a donné des résultats hyper intéressants d'ailleurs, sur les usages des personnes précaires. On a fait aussi une étude, c'était sur l'accès à l'eau et l'hygiène en Seine-Saint-Denis. Pareil, hyper passionnante sur quelles étaient les bonnes solutions à implanter pour pouvoir donner l'accès à l'hygiène en fonction des critères démographiques, etc. On a fait une étude sur la santé mentale dans les Yvelines, et la précarité aussi. C'est hyper intéressant. Là pendant le Covid, on n'a pas fait d'études, on n'a pas fait de grosses études, mais on a pu sortir quelques stats. Et on s'est rendu compte du pouvoir de la data qu'on pouvait avoir, notamment avec SoliGuide. Parce que rien qu'avec SoliGuide, on pouvait voir en un clin d'œil, OK, 83% des structures là qui sont fermées sur nos territoires. Ça, c'est hyper fort parce que personne d'autre ne pouvait sortir ces chiffres. On a pu voir à quel rythme est-ce que les structures réouvraient, à quel rythme est-ce qu'elles ont fermé. Et ça, on pense que c'est hyper intéressant. Donc, on a envie demain d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse des données pour pouvoir apporter des données objectives et donc, du coup, permettre aux décideurs de prendre des meilleures décisions sur les sujets liés à l'action sociale. Je vous donne un exemple. Là, on va arriver en été. En été, il y a beaucoup de structures qui ferment. Cette année, on va essayer de faire une petite analyse de la continuité des services, voir quels sont les services qui sont particulièrement touchés, qui ferment beaucoup ou pas face à la demande. Donc, ça va être très, très intéressant à transmettre, notamment aux collectivités locales.
Mais oui, j'imagine que, et même c'est un outil de prise de décision pour les structures associatives et solidaires des départements dans lesquels vous êtes. Parce que prendre la décision, je dis n'importe quoi, de fermer un accueil de jour quand on sait qu'il n'y en a plus que un ou deux d'ouverts dans un périmètre de plusieurs kilomètres carrés, forcément, ça pose des questions, quoi. Je trouve ça super intéressant, vraiment. Et du coup, ça, c'est un outil que vous allez mettre en place à quelle échéance, en fait? Est-ce que c'est possible d'obtenir, par exemple, ce type de statistiques pour l'été qui vient dans les Hauts-de-Seine? Parce que nous, je trouve que c'est vachement intéressant, hein.
C'est ce qu'on a prévu là. Bon, après, chez Solium, de toute façon, on a toujours un cycle. On expérimente des choses en version bidouille, en version on entend quelques trucs qui marchent pas, etc. C'est ce qu'on va un peu faire là pendant la mise à jour été. Donc, on a pleinement inclus dans le processus de notre mise à jour le fait de remonter des statistiques à toutes les étapes. Donc, on va pouvoir faire des jolis rapports qu'on sera très heureux de vous transmettre sur le 92. Et puis après, progressivement, pour l'hiver prochain, on améliorera un petit peu pour l'été suivant, encore une fois. C'est comme ça qu'on avance à chaque fois.
C'est vraiment super. Je vois que l'heure tourne et je voulais demander à Tiffaine s'il y avait des questions qui se sont posées.
Alors, vous avez été, Victoria, c'est passionnant, bravo. Hein. Bravo pour cet investissement qui est juste incroyable. Je pense que moi, je vous ai trouvé très clair, mais je suis sûre de ne pas être la seule puisqu'il y a une seule question. Donc, ça veut dire que, voilà, c'est limpide. La question est la suivante. Quel est le profil de vos bénévoles? Et puisque c'est du numérique, est-ce que ce sont plutôt des jeunes? Ça, je pense que c'est quelqu'un qui a très envie de s'investir dans votre association, mais qui attend d'en savoir un peu plus sur vos bénévoles.
Alors, du coup, pendant le Covid, c'est encore du coup une expérimentation, le bénévolat. On a envie de le continuer et maintenant, on essaye d'en tirer des bonnes conclusions, des bonnes pratiques. Du coup, pendant Covid, on a eu la chance d'avoir des bénévoles hyper variés, des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on a eu des initiatives personnelles, des personnes qui ont voulu s'engager pendant le confinement. Et donc, notamment, on avait fait des appels sur les réseaux sociaux, sur nos newsletters, etc. Mais aussi, on a eu des entreprises comme Wavestone ou Bouygues Telecom qui nous ont mis à disposition des collaborateurs. Et ça, c'était vraiment hyper fort. On a adoré parce que du coup, c'est des personnes qui étaient hyper enthousiastes de pouvoir, pouvoir utiliser leurs compétences pour un projet, même s'ils étaient en chômage partiel. C'était des personnes de tous âges. Et on avait, du coup, on a essayé de mettre en place des outils qui soient le plus facile possible à utiliser. Donc, nous, en interne, on a mis les outils compliqués, les trucs où il faut avoir fait un G pour comprendre ce qu'on fait des fois. Là, pour le coup, pour les bénévoles, on a essayé de simplifier au maximum les processus. On a fait un tas de tutoriels. On a fait des formulaires hyper clairs. Enfin, en tout cas, on espère que ça va passer visiblement. Au lieu de faire des outils hyper compliqués, des fois, on a fait juste des Excel.
Ah bah génial. Et alors, en fait, il y a une autre question à la suite de cette première question qui d'abord vous félicite et ensuite qui demande quels sont vos besoins pour l'avenir et comment est-ce qu'on peut vous aider. Alors, bien sûr, à l'issue de cet échange, tout le monde recevra un email avec, avec votre adresse mail et le lien vers votre site internet. Mais est-ce qu'il y a des missions particulières aujourd'hui, plus ou moins courtes, auxquelles vous pensez, sur lesquelles vous avez des besoins? Est-ce que c'est des missions humaines? Est-ce que c'est des besoins financiers? En fait, aujourd'hui, voilà. Comment est-ce que les personnes qui ont été passionnées par cet échange peuvent se mettre à votre service?
Alors, des besoins, comme toutes les petites structures, on en a plein. Des besoins génial. Financiers, parce qu'on a envie de se développer partout, on a envie d'améliorer l'outil, on a envie de faire plein de choses. Des besoins humains, sur Merci pour l'invite, on cherche toujours des hébergeurs. Ça peut être des personnes qui peuvent héberger, mais aussi des personnes tout simplement qui vont en parler autour d'eux. Franchement, c'est le meilleur canal qu'on peut avoir. Pour que le plus de personnes sachent que c'est une démarche qui est possible et qui n'est pas si compliquée et qui ne fait pas peur, promis. Et puis la troisième chose, du coup, on essaye de lancer les programmes de bénévolat, du coup, ce qu'on n'avait jamais essayé avant, mais qu'on a pu tester pendant le Covid. Là, on espère lancer pendant l'été, justement, des programmes courts de bénévolat pour nous aider à faire cette mise à jour été. Et nous aider à appeler tout le monde pour savoir qui est ouvert, qui est fermé, qui est un petit peu fermé, mais pas complètement.
D'accord. Oui, donc, en fait, ils rentreront en contact avec vous à travers votre site internet et, ou alors en vous envoyant un mail, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais. Mais donc pour répondre à la question, les besoins sont nombreux et il n'y a pas de, voilà, y a pas d'histoire d'âge, il n'y a pas d'histoire de connaissance de l'outil internet. Voilà, vous avez de quoi... donner à tout le monde, enfin proposer à tout le monde une réponse positive à leur bénévolat humain.
Mmh. Il y a une question. Alors d'abord, nous on est hyper fiers à la Fondation de soutenir ce Linum et même d'avoir participé à son installation dans les Hauts-de-Seine. Voilà, si on compte bien poursuivre. Il y a une question. Je voudrais comprendre comment ça fonctionne, ce Linum et Entourage, parce que Entourage, c'est aussi une association qu'on soutient, qui bénéficie d'une notoriété plus importante et peut-être que nos auditeurs du jour connaissent Entourage et ne connaissaient pas ce Linum. Comment vous fonctionnez? Je sais que vous fonctionnez tous les deux ensemble. Où est la complémentarité?
Alors, nous, on bosse beaucoup avec l'association Entourage qu'on adore. Qui sont sur le secteur depuis bien plus longtemps que nous en plus, donc on apprend beaucoup de choses d'eux, ça c'est génial. Du coup, Entourage, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est notamment une super application qui permet aux riverains et aux personnes sans abri d'être mises en lien. On peut avoir une personne sans abri qui va avoir un besoin, donc, par exemple, je sais pas, je cherche des chaussures taille 44, et on va avoir un entourage qui va se créer pour aider cette personne, donc des personnes qui ont envie de l'aider. Et ils font aussi des événements solidaires, plein de choses chouettes. Nous, on bosse beaucoup avec Entourage en complémentarité parce qu'on n'a pas du tout les mêmes publics. Eux, vont vraiment s'adresser aux riverains. Et nous, notre communication, elle est encore un peu balbutiante sur Merci pour l'invite pour le grand public. Et sur ceux des guides, on ne communique carrément pas avec le grand public parce que nous, c'est vraiment les acteurs de la solidarité qui sont nos partenaires et nos utilisateurs principaux. Donc du coup, on a décidé en 2020 de bosser avec Entourage de façon encore plus forte, en partageant notre base de données de façon dynamique avec eux, pour que demain, les personnes riverains puissent orienter les personnes sans-abri qu'elles connaissent via les données de SoliGuid, sans avoir à changer d'application forcément.
Ça, c'est un bel exemple de collaboration super efficace entre deux startups sociales innovantes. Hein. Bravo, bravo, c'est un exemple formidable. Est-ce qu'il y a d'autres questions, qui se posent? Je ne sais pas.
Non,
si...
j'ai pas l'impression.
Non, c'est bon. Bon,
il n'y a pas d'autres questions. Je pense que ça a été très clair. Merci beaucoup, hein, Victoria. C'était passionnant.
Oui, vraiment. Ah, alors, j'ai une petite question quand même sur comment les accueillis participent au projet. On a 2-3 minutes. Ça sera pour conclure cette jolie histoire. C'est vrai qu'on aime bien voir aussi les bénéficiaires agir dans le projet. Est-ce que c'est le cas?
Toujours, toujours. On ne peut pas faire un projet qui tient la route sans que les bénéficiaires participent. Ou alors, on va dans le mur. Ça, c'est sûr. Du coup, nous, sur tous nos projets, on travaille toujours en co-construction avec les personnes. C'est tout bête, mais en fait, on leur demande, t'en penses quoi, est-ce que ça paraît utile, etc. Sur SoliGuid, ça s'est traduit de plusieurs manières. Donc, par exemple, les pictogrammes, on les a définis avec des personnes bénéficiaires, notamment qui ne maîtrisaient pas forcément hyper bien la langue. On a aussi défini les catégories pour et avec ces personnes. Donc, c'est pour ça que les acteurs de la solidarité étaient parfois un petit peu surpris de ne pas trouver des catégories auxquelles ils seraient attendus, comme par exemple PASS ou CSVP ou des trucs comme ça. On a choisi vraiment de partir par le besoin, parce que c'est ce que voulaient les personnes. Ils s'en fichaient d'où ils trouvaient une douche, mais ils voulaient juste une douche.
Bien sûr. Bien sûr. Oui. Très intéressant.
Donc,
Pardon, Victoria.
Je disais, du coup, on fait beaucoup, beaucoup de tests sur SoliGuid et sur Merci pour l'invite, encore plus fort, parce qu'on a une ancienne hébergée de Merci pour l'invite qui est maintenant bénévole pour nous à Bordeaux et qui participe beaucoup et qui est en train d'organiser un événement d'ailleurs à Bordeaux qui va être top.
Oh bah, c'est génial. Bah, merci infiniment, Victoria. C'était hyper clair. On est vraiment heureux de vous avoir eu, d'avoir partagé cette demi-heure avec vous. On vous donne à tous rendez-vous dans 15 jours pour une autre découverte d'un bel acteur solidaire. Ça sera Out Secours Alimentaire que vous retrouverez dans le SoliGuid, je crois, de toute façon.
Tout à fait.
Merci encore, Victoria. Bravo pour cet investissement. Bravo pour toutes ces idées. On n'hésitera pas à parler de vous.
Merci beaucoup à tous.
Merci à tous.
Bonne journée.
Merci Victoria.